On va prier et puis on va se tourner ensemble dans le livre de Zacharie. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ton amour pour nous, merci pour ta grâce envers nous, merci pour qui tu es pour nous, pour ce que tu as fait pour nous, pour comment tu nous as aimé le premier, Seigneur. Aide-nous à regarder ta parole ce matin, à la chérir, Seigneur, à la mettre dans nos têtes et dans nos cœurs et à y réfléchir, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Nous te demandons de nous parler ce matin, Seigneur. Amen. On perd les jeunes. Donc si vous voulez, vous tournez dans Zacharie 3. On va continuer notre étude dans ce livre de Zacharie. Je propose qu'on lise tout de suite le texte qu'on va regarder ce matin. Donc c'est Zacharie 3. Je lis à partir du verset 1. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur le germe. » En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 lieues sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Amen. Alors on est en train d'étudier le livre de Zacharie. Pierre a déjà enseigné sur les passages précédents et on a dit que Zacharie est un livre qui s'inscrit au niveau historique dans la période de ce qu'on appelle l'après-exil. Israël avait été un royaume, a été conquis par différents empires et Babylone, l'empire babylonien a fini d'achever un petit peu ce royaume d'Israël et les a emmenés en captivité pendant 70 ans en accord avec ce que Dieu avait entre guillemets promis à Israël s'il ne l'écoutait pas. Et après ces 70 ans, il y a un reste du peuple qui retourne en Israël pour reconstruire un temple et se réinstaller dans le pays. Et Zacharie est un prophète. À ce moment-là, pendant qu'ils sont en train de reconstruire, on a regardé d'autres prophètes mineurs, âgés, qui est au même moment, et on voit que le peuple a besoin d'encouragement, il a besoin d'être exhorté, ils sont découragés. Israël avait un royaume puissant, riche, avec un passé important, et là ils se retrouvent quelques-uns dans des restes complètement détruits. Ils essaient de reconstruire le temple, mais avant c'était construit en or pur avec des pierres machin. Là ils sont avec trois morceaux de bois qu'ils ont trouvé qui n'avaient pas été brûlés. Enfin, c'est entre guillemets, ils recommencent avec quasiment rien et ils se découragent. On a vu qu'il y avait de l'opposition. Si on regarde les autres livres, il y a les livres d'Esdras, de Néhémie, qui nous décrivent un petit peu ce qui se passe, les événements historiques. Et on voit qu'ils ont de l'opposition et que c'est difficile et qu'ils ont besoin d'être encouragés. Les choses ne sont pas comme avant. Et ils se disaient, mais à quoi bon finalement? Est-ce que c'est vraiment... Et donc Pierre a déjà dit toutes ces choses, que Dieu veut les encourager, veut leur dire je vais vous redonner une place, je veux que vous reconstruisiez, il leur fait des promesses, il les met au défi déjà, continuez, je veux que vous reconstruisiez, faites-le, soyez obéissants, obéissez à ce que je vous demande de faire, à savoir reconstruire le temple, de vous réinstaller dans le pays et pas vous arrêter et vous apitoyer sur vos sorts. Et donc Zacharie rentre là-dedans et le livre de Zacharie... Il y a une première moitié qui est constituée de rêves ou de visions que Dieu donne à Zacharie. On a déjà regardé trois visions dans les chapitres 1 et 2, avec une vision de chevaux, avec des cavaliers, une vision de quatre cornes avec quatre forgerons, la vision d'un ruban à mesurer. Et on a Pierre à parler de ces choses-là, et c'est des promesses, c'est des visions qui sont là pour dire à Israël, je vais reconstruire Jérusalem, je vais restaurer le peuple, je vais juger vos ennemis, ceux qui ont détruit le pays, qui vous ont fait du mal. Le livre continue avec, on va regarder la quatrième vision, il y en aura encore quatre. Et puis il y a une deuxième partie du livre qui est une partie avec des exhortations et d'autres choses. Mais ces visions sont intéressantes, marrantes, parce que ce sont des visions qui peuvent nous rappeler nos rêves. Je ne sais pas vous, moi je rêve, ou en tout cas je ne me souviens quasiment jamais de mes rêves. C'est très très rare que je me souvienne de rêves que j'ai faits. Ma femme, au contraire, Lindsay, se souvient de beaucoup de ses rêves et elle a des rêves très très marrants. Qui, si vous voulez, allez lui demander après le culte. Et je ne sais pas vous, mais le monde des rêves, souvent, ça peut être assez bizarre. Et ici, dans le livre de Zacharie, on a l'impression d'avoir vraiment Zacharie qui nous partage ses rêves un peu sans filtre, de manière honnête. Et on a des choses bizarres, des quatre cornes, là ici aujourd'hui on a une pierre avec des yeux dessus, il y aura des choses volantes, bizarres dans les textes qui suivent et c'est un petit peu spécial et on peut lire ces textes et se dire je comprends pas trop, mais c'est quelque chose que Dieu peut utiliser et utilise dans la Bible. C'est ce genre de vision et ce genre de choses pour nous communiquer des choses de sa part. Et c'est ce qu'il veut faire ici. Entre parenthèses, je vous encourage à lire le livre. C'est ce que je fais en général quand j'enseigne. C'est pas la première fois que je le fais. Mais vous savez qu'on va être dans Zacharie pendant quelques semaines, quelques mois encore, qu'on va étudier ce livre. Prenez le temps, lisez-le un soir. Que vous soyez au courant, que quand on arrive le dimanche matin, ce ne soit pas quelque chose de complètement étranger. Zacharie, ce n'est pas forcément celui qu'on lit, on se dit, tiens, pour me faire du bien, je vais me lire le livre de Zacharie. Qui c'est qui a lu le livre de Zacharie, je sais pas, dans les derniers 5 ans? Si vous lisez la Bible en un an, peut-être que vous êtes passé dessus, mais vous n'en souvenez pas, ou j'en sais rien. Je vous encourage à le lire, peut-être. C'est pas très long. Ici, dans la Bible que j'ai ici, ça fait 5-6 pages. Ça se fait, hein. Je pense que le psaume 119 doit être plus long juste en lui-même. Donc, ça se lit assez bien. Mais donc, on arrive ici sur cette vision du grand prêtre, comme c'est intitulé ici dans ma Bible. Le grand prêtre, qui c'était ? C'était le chef religieux de la nation d'Israël. C'était quelqu'un d'une très grande importance, pour ne pas dire de la plus haute importance dans la nation d'Israël. Il est le symbole de leur religion, de leur foi. Il est le symbole de leur relation avec Dieu, il est le symbole de quasiment leur identité en tant que nation, qui est cette identité de peuple choisi par Dieu, qui leur avait donné la loi, qui leur avait donné tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament, notamment dans le Pentateuch. Toute cette relation spéciale avec Dieu était représentée en quelque sorte par le grand prêtre. Et c'était quelqu'un qui avait une vie réglé, il avait des tâches à faire tous les jours, il avait des rôles, des choses à faire tous les ans, il avait des indications sur comment se comporter, comment qui pouvait marier, etc. Si ça vous intéresse, on va pas faire toute une étude dessus, mais dans Exode 28 et 29 et dans Exode 39, vous pouvez lire les détails sur qui était ce personnage, un petit peu les règles, tout ce que Dieu exigé de ce personnage. Et il avait vraiment une importance qu'on, je pense, qu'on a du mal à considérer aujourd'hui, notamment aussi comment il était habillé. C'était très important. Il avait des habits spéciaux, des habits de lin pour le tous les jours, et après des habits spéciaux pour quand il était en train d'officier ou à certains moments. Et par exemple, il y a tout un chapitre, quasiment le chapitre 28 d'Exode, c'est quasiment tout un chapitre pour décrire comment on devait fabriquer le vêtement qu'il allait porter quand il allait officier en tant que grand prêtre, faire des sacrifices à Dieu. Et pour moi, pour essayer de me mettre ça dans l'esprit et pour essayer de comprendre, j'ai le souvenir, qui parmi vous a apprécié regarder un ou l'autre des mariages princiers en Angleterre? Je sais que ma femme, elle a bien aimé ça. Vous n'avez pas besoin de lever les mains. Je pense que les hommes, pas forcément, mais les femmes peut-être plus. Et moi, j'ai pas regardé en détail, mais je me souviens avoir vu aux nouvelles quelque chose où ils interviewaient quelqu'un qui travaillait dans une usine quelque part dans le nord de l'Angleterre et qui disait: oui, nous, on a fabriqué la dentelle qui allait sur une partie du vêtement du mariage de la princesse, et ils étaient fiers qu'ils en pouvaient plus. Et en quelque sorte, le grand prêtre d'Israël, c'était un petit peu ça. C'était comme si on prenait les meilleurs artisans sur la planète, le plus d'argent qu'on pouvait utiliser, les meilleurs matériaux qu'on pouvait trouver sur la terre, et on en faisait des vêtements juste comme Dieu l'avait ordonné. C'est Dieu qui avait donné les instructions pour comment on faire. Et à mon avis, ça nous donne un petit peu cette idée de l'importance. C'est quelque chose de difficile pour nous à imaginer de nos jours avec la manière dont on achète nos vêtements ici et là, n'importe comment. Et de se dire là, il y avait peut-être, on ne sait pas s'ils en avaient fabriqué plusieurs, peut-être qu'il y avait ce vêtement spécial qu'il utilisait notamment une fois par an quand il entrait dans le Saint des Saints. Alors il n'entrait pas dans le Saint des Saints avec ce vêtement, il l'enlevait. Mais Il y a aussi des descriptions dans Lévitique 8, il y avait une tunique, une ceinture, une robe et des choses qu'on appelait l'éphod ou le pectoral et un chapeau sur la tête, avec des diadèmes, avec de l'or, avec de l'argent, avec des choses d'une richesse incroyable. Et donc ce personnage était d'une importance incroyable pour le peuple d'Israël. Et dans le contexte historique aussi de ce qu'on voit dans ce texte, on peut se rappeler que pendant une période avant, Israël a eu un roi. On sait qu'Israël n'a pas commencé avec un roi, ils ont d'abord été un peuple qui était mené par les patriarches, et ensuite il y a eu des juges, et puis le peuple a demandé, on veut avoir un roi comme les autres nations autour de nous, et donc Dieu leur a donné un roi, et puis il y a eu une succession de rois. Et les rois pouvaient peut-être avoir une place d'importance similaire. Il y avait le roi, il y avait le grand prêtre. Donc il y avait peut-être cet équilibre entre les deux. Mais ici, après l'exil, et pour le reste de l'histoire d'Israël tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus de roi, ils n'ont plus d'indépendance politique. Ils vont être soumis aux Perses. Ici, ils reviennent dans le pays, mais ils sont soumis à l'empire perse. Darius, il est question au début du livre de Zacharie, du règne de Darius. Et en quelque sorte, on leur a donné l'autorisation. Oui, vous pouvez rentrer chez vous, vous pouvez vous remettre à faire votre culte religieux, mais vous nous êtes soumis. Vous êtes un territoire que nous dominons, mais vous pouvez faire ce que vous voulez religieusement, mais politiquement, vous nous êtes soumis. Et donc, à partir de ce moment-là dans l'histoire, et ça sera aussi le cas après, et notamment à l'époque de Jésus, et sous l'Empire romain, ils ne sont pas libres politiquement, ils n'ont pas leur propre autorité. Et donc, à partir de l'exil, le grand prêtre, d'une certaine manière, était la personne qui représentait le mieux, qui avait la plus grande importance pour la nation d'Israël. Et une parenthèse peut-être, mais qui m'a marqué, où je me suis dit, tiens, c'est fou, parce qu'on se dit l'histoire, c'est toujours, quand on regarde les chiffres, on se dit des choses qui se sont passées il y a 2000, 3000 ans, ça nous paraît loin, et il y avait un commentateur qui disait qu'on estime qu'il y a eu peut-être 80 à 85 grands prêtres dans l'histoire. Ils pourraient être tous assis ici et on aurait encore de la place. C'est marrant de se dire ça. C'était vraiment, il y en a pas eu beaucoup. Ils étaient d'une importance et c'était une position incroyable. Et de réfléchir à ça, ça nous permet de nous plonger dans le texte et de regarder un petit peu et de comprendre ce qui est dit ici. Donc à partir du verset 1, « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et ils lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Et donc là, on a cette image qui pour les Juifs devait être choquante, d'un grand prêtre, de leur grand prêtre, avec des vêtements sales. Avec quand on lit le contraste entre ce que Dieu leur avait demandé de préparer comme vêtements, ce qu'ils devaient porter, toutes les règles, toutes les choses, toute l'idée de pureté sur sa tête. Le grand prêtre avait une plaque en or où il y avait marqué. Alors c'est pour vous donner la référence exacte, il y avait marqué « Sainteté à l'Éternel ». Vous pouvez regarder ça dans Exode 28, c'est indiqué, mais c'était marqué « Sainteté à l'Éternel ». L'idée de pureté, l'idée de quelque chose d'une incroyable richesse et quelque chose de beau. Et ici, on a ce contraste avec ce grand prêtre qui est sale, qui est finalement indigne, on se dit, d'être devant Dieu, qui est indigne de son rang, qui est indigne de ce qui ne fait pas ce qu'il devait faire. Et le mot sale qui est utilisé pour décrire les habits au verset 3, et de ce que j'ai lu dans les commentaires, un des mots les plus forts qui pouvait être utilisé pour décrire quelque chose de vraiment horriblement sale, c'est pas, il n'a pas un peu de poussière, c'est il a du cambouis, du truc, de la terre, il est sale. Et donc ce grand prêtre, ici il est question du grand prêtre Josué. Alors on peut se dire, mais Josué, et dans l'histoire d'Israël, il y a eu pas mal de Josué. Donc on a le Josué qu'on connaît, le livre de Josué, celui qui a succédé à Moïse. Mais ici, c'est pas celui-là. Ici, c'est le grand prêtre à l'époque de Zacharie. Il en est question dans Agé. Et donc, c'est un certain Josué, fils de Yotsadak, qui était revenu avec le peuple et qui était le grand prêtre à cette époque-là dans l'histoire. Dans ce texte, je pense qu'il est bon de considérer ce grand prêtre comme étant une représentation de la nation d'Israël. Il représente le peuple ici. Le Zacharie a cette vision et parle en utilisant cette image de Josué que le peuple connaissait à ce moment-là, mais l'idée que il est question ici d'un symbole de la nation d'Israël. Et le grand prêtre, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Et en verset 3, on voit aussi qu'il se tenait debout devant l'ange. Et ici, il y a l'idée qu'il, quand dans l'Ancien Testament, se tenir debout devant quelqu'un, c'est l'idée de servir quelqu'un. C'est l'idée d'être là, présent, actif, à son service. Donc, le grand prêtre se tient ici pour servir l'ange. Pierre a expliqué qui était cet ange de l'Éternel, dont il est question ici dans plusieurs versets. On pense que c'était une forme préincarnée de Jésus, que c'était une vision de Jésus. Et donc ce grand prêtre est présent devant cette forme préincarnée ou Jésus, et il est présent aussi, il y a Satan qui est présent dans cette scène, et Satan, il est indiqué, se tient à droite pour l'accuser. Il est là pour accuser Josué. Il est là pour accuser la nation d'Israël. Il est là pour dire il est pas digne d'être ici, il est pas digne d'être là en train de te servir. Regarde, il est sale. C'est quelque chose, on peut être choqué parfois. Les gens nous disent, mais comment ça se fait, Satan qui est là finalement, qui a l'air d'être présent au ciel, qui peut venir, et la Bible nous présente Satan comme ayant un accès. Il en est question dans Job, il en est question dans l'Apocalypse, où Dieu met fin à son accès à la fin des temps. Mais Satan a pour l'instant un accès entre guillemets devant Dieu pour venir, et la Bible nous explique que c'est l'accusateur, que c'est l'accusateur des frères, il est dit dans le Nouveau Testament, et qu'il vient pour essayer de faire remarquer à Dieu, ou pour nous faire remarquer, mais il est pas digne, il est pécheur, il est indigne de toi Dieu, regarde tout le mal, combien il est sale. Et ici il fait sans doute son travail. On imagine qu'il déteste le fait que Josué soit en présence de Dieu, qu'il n'aime pas que Josué serve Dieu ici, qu'il soit là à se tenir devant Dieu, et donc il accuse. Et on va regarder après peut-être une réflexion par rapport aux accusations, mais l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ? Dieu exige qu'il se taise. Quand on lit ce verset, on peut se dire que c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que l'Éternel parle de lui à la troisième personne ou comment ça se passe. Et on a parlé du fait que Dieu est Dieu en trois personnes, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc ici, on peut penser que c'est l'ange de l'Éternel, Jésus, qui dit en quelque sorte à Dieu le Père, Dieu le Père, il te dit de fais le taire. Et Dieu ne permet pas que Satan attaque son peuple. Et c'est quelque chose que l'on voit dans la Bible. Dieu contrôle ce que Satan peut faire. Il permet une certaine liberté, il permet que Satan fasse certaines choses, mais il a un contrôle sur Satan. Et ici, le verset 2, et il y a cette fin ici où il dit « Lui qui a choisi Jérusalem ». Il dit « C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi en quelque sorte qui ai fait que ce Josué, que cette nation soit ici, soit devant moi ». Et il dit « Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ?» Et de réfléchir à ce petit morceau de verset est très intéressant et peut être très profond. Si vous faites un feu de camp et que vous tirez un morceau de bois qui a déjà peut-être brûlé ou qui a brûlé en partie, vous savez qu'il va être sale, il va être couvert de noir, que ça va être, si vous le mettez contre quelque chose, ça va le salir et c'est cette image ici de quelque chose de tirer du feu. Et on peut se dire, si Dieu l'avait laissé dans le feu, il aurait été complètement consumé. Mais que Dieu a décidé de l'en sortir. Et si Dieu l'a sorti du feu, c'est qu'il a un intérêt à l'avoir tiré du feu. C'est qu'il a, il s'est pas trompé, il a pas tiré le morceau puis s'est dit ah zut, Dieu a dit mais c'est, je l'ai tiré du feu. Le fait que j'ai agi pour le sauver en quelque sorte, c'est parce qu'il y a une raison. Et on peut regarder l'histoire d'Israël et réfléchir à ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on voit que Dieu a gardé Israël pendant l'exil, pendant qu'ils ont été conquis, qu'il a gardé un reste. Ils ont été 70 ans à Babylone, le pays avait été dépeuplé, le pays avait été repopulé par d'autres gens, on voit les difficultés qu'ils ont à revenir pour reconstruire. Dieu aurait pu laisser la nation d'Israël à ce moment-là disparaître de l'histoire. Les peuplades de l'Ancien Testament, les Babyloniens, les Perses, quand ils exterminaient, quand ils enlevaient une nation comme ils ont fait à Israël, c'était pas fait à moitié. Ils étaient prêts à prendre du sel, à le verser sur tous les champs où il y avait de l'agriculture, à déconstruire tous les bâtiments, à enlever tout ce qu'il y avait comme idole ou de choses religieuses. Il les amenait dans un autre endroit, il les séparait, il remettait des gens à la place. Ils étaient très 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 forts pour prendre une civilisation et une population et une culture et une identité peut-être ethnique ou historique, et pour l'effacer. Si vous allez regarder dans les livres d'histoire, les histoires des conquêtes, c'est fascinant et en même temps terrifiant de se rendre compte à quel point ils étaient forts pour faire ce genre de choses. Et donc Dieu aurait pu les laisser disparaître, mais il les a sortis de ce feu. Et dans cette étude de Zacharie, Pierre en a parlé, on a dans tout ce qui est prophétie, il y a l'idée qu'il y a un accomplissement premier, proche, ils ont été tirés de ce feu de l'exil. Et il y a aussi l'idée que les prophéties, qu'il y a un accomplissement futur, un accomplissement qui doit encore arriver. Et quand on regarde l'histoire d'Israël dans le monde, on voit que d'une certaine manière, l'histoire du peuple d'Israël dans le monde, ça ressemble à un feu. Quand on voit la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on en est au courant. Mais même des choses plus... Si vous allez regarder au Moyen-Âge, il y a des villages en Provence où les Juifs devaient se regrouper et se construire des fortifications parce qu'on... De temps en temps, on allait exterminer des Juifs pour c'était du sport, je veux dire dans l'histoire depuis le temps de Jésus, le fait d'être attaqué, d'être détruit, d'être dans le feu, c'est quelque chose qui marque l'histoire d'Israël. Et Dieu dit c'est un bout de bois qui est arraché au feu, c'est moi qui l'ai tiré de ce feu et il va les garder et on a vu dans l'étude de Romains qu'il n'en a pas fini avec Israël. Dans Romains 9, 10 et 11, et notamment dans 11, Paul dit « Mais est-ce que Dieu en a fini avec Israël ?» Il dit « Non, certainement pas. » Il dit « Il y a encore des choses qui sont à venir pour Israël. » Et donc, il réduit Satan au silence et il dit « Mais c'est moi qui ai décidé de le sortir. » Mais Josué est sale. Josué a un problème. Il est en train de servir Dieu, mais il est pas propre. Et c'est intéressant parce que les accusations de Satan étaient justifiées. Les accusations de Satan ne sont pas des accusations farfelues, sorties de nulle part, inventées. Et dans nos vies, si on veut appliquer un petit peu la situation ici à nous, Satan, qui est l'accusateur des frères, aime bien aussi nous accuser, nous faire croire que nous ne sommes pas dignes, nous dire que nous sommes de mauvais pécheurs, que nous ne sommes pas dignes de Dieu, nous ne sommes pas dignes de le servir. On va en parler à la fin. Et ces accusations sont justifiées. Nous sommes indignes. Et la nation d'Israël, le grand prêtre, n'était pas digne. D'une certaine manière, le grand prêtre, avec ses vêtements, les plus beaux vêtements que l'humanité pouvait concevoir, pouvait créer, pouvait fabriquer, était devant Dieu comme des vêtements sales, des vêtements horribles. Et de la même manière, tout ce que nous pouvons faire de mieux, tout ce que nous pouvons présenter ou amener de mieux à Dieu, à Jésus, ce ne sont que des choses sales. Et ça devait vraiment choquer les Israélites de réfléchir à ça, parce que comme je vous ai dit, c'était leur fierté, tout ce qu'ils pouvaient faire. Comme je vous disais, comme avec peut-être la famille royale, vous dites, s'il y a bien quelqu'un qui a une garde-robe la plus jolie, la plus propre qui soit, j'imagine qu'il y a des équipes qui sont pour la famille royale d'Angleterre, j'imagine qu'il y a des personnes il doit y avoir toute une équipe dont le seul travail est de vérifier que les vêtements sont propres. Il doit y avoir une autre équipe qui vérifie que c'est le bon style, du bon goût, qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Il y a un autre groupe de personnes qui surveille la production, qui vérifie que tout est fait avec le meilleur possible, etc., qui sélectionne. Et devant Dieu, c'est juste des vêtements sales. Mais au verset 4, l'ange prend la parole, l'ange de l'Éternel, et il dit à celui qui se tient devant lui, à ceux qui se tiennent devant lui, « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il dit à Josué, « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » C'est l'ange de l'Éternel qui enlève la faute, qui règle le problème. Et il dit la saleté, les vêtements sales, ça représente la faute de Josué, le péché. C'est la faute de la nation d'Israël. Et c'est une idée et quelque chose qui revient dans la Bible de partout, de la Genèse à l'Apocalypse, cette idée du besoin d'être revêtu de quelque chose de saint, de pur. On peut penser à l'idée de d'Adam et Ève qui se disent tiens, on est mal habillés, on n'est pas, il y a un problème, ils se courent, etc., etc. Et jusqu'à l'Apocalypse, dans une des promesses qui est faite dans les lettres qui sont aux églises dans l'Apocalypse, il y a l'idée qu'il va donner des vêtements blancs à celui qui va écouter. Et c'est quelque chose qui revient, l'idée que nous devons nous revêtir de Christ, nous devons revêtir la justice qui vient de Jésus. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui le fait, qui le donne. Et c'est quelque chose aussi de encore une fois, c'est vraiment l'idée de la grâce ici. C'est pas juste de ne pas être puni en accord avec ce qu'on mérite. C'est vraiment le fait de recevoir quelque chose de bon que nous ne méritons pas. C'est de recevoir des vêtements propres, des vêtements de fête. Et il dit, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Encore une fois, ces vêtements qui lui sont mis, ça fait inévitablement penser pour les Juifs à ce turban avec cette plaque, avec cette inscription « Sainteté à l'Éternel », ce fait d'être réservé à Dieu, ce fait d'être consacré à l'Éternel, dans Exode 28, verset 36, si ça vous intéresse. Et ensuite, l'ange de l'Éternel fait une déclaration à Josué. Verset 6 et verset 7, il dit « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Ça rappelle ce qui avait été ordonné à Josué, dans Josué 1, 7, où il est marqué « Seulement fortifie-toi et aie bon courage et, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Il lui dit « Suis-moi et fais ce que je dis. » Et il fait une promesse à Josué et d'une certaine manière à la nation d'Israël. Si tu me suis et que tu m'obéis, tu vas garder ta position, tu vas avoir ici c'est intéressant, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dans la vision, on est devant Dieu avec des anges. C'est presque comme s'il disait, je te donnerai accès direct à Dieu avec les anges. C'est quelque chose de presque surprenant. Et dans l'Ancien Testament, et pour les Juifs, quand on connaît leur rite religieux et la manière dont ils devaient interagir avec Dieu, on sait que la présence de Dieu n'était pas quelque chose qui venait facilement. Le seul qui avait le droit de pénétrer dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, une fois par an, c'était le grand prêtre. Et c'était fait à grand renfort de sacrifices toute l'année, de sacrifices le jour même, et en tremblant, en espérant qu'on n'allait pas être foudroyé, zigouillé sur l'instant. Et il dit, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ça nous rappelle, alors on va regarder les applications pour notre vie, mais dans Hébreux 4, 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Maintenant, il y a un accès facile. Nous avons un accès à Dieu grâce à ce que Jésus a fait. Mais ici, c'est une promesse pour le futur, pour Israël, pour le peuple. Il dit verset 8 « Écoute donc Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe, je ferai venir mon serviteur le germe. » Dans d'autres traductions, il leur dit, dans la Bible en français courant, il est marqué « Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre, écoutez également, vous les prêtres, ses compagnons, vous tous qui êtes un signe du salut à venir. je vais faire apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. » Il y a l'idée que Josué, les autres prêtres, qu'ils sont un signe de ce qui va venir avec Jésus. Cette idée de germe, c'est quelque chose qui revient dans beaucoup de prophéties concernant Jésus. Dans Ésaïe, dans Ésaïe 4, 2, dans Ésaïe 11, 1, dans Jérémie 23, 5, dans Jérémie 33, 15, je ne les lis pas pour ne pas faire trop long, mais il y a toute une étude à faire. Si vous lisez les commentaires, les théologiens qui regardent cette expression de germe, c'est l'idée d'une branche qui commence à pousser. Et c'est la même idée et les mêmes choses que ce que Jésus dit lui-même quand il parle aux disciples dans Jean 15. Demeurez en moi, et cette idée qu'il est la racine ou le début de la plante, du fruit. Il y a l'idée de vie et de fruit. Et il continue au verset 9. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Donc il donne une autre image de cette promesse. Et il y a cette pierre avec ses yeux dessus. Et dans l'Ancien Testament, souvent les yeux, ça représentait la connaissance ou la sagesse. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et donc ici, on pense que c'est l'image de la parfaite connaissance et de la parfaite sagesse de Jésus. Quand il dit « je graverai moi-même ce qui doit y être gravé », on ne sait pas exactement ce dont il s'agit. On se dit c'est peut-être les meurtrissures qu'allait subir Jésus. Peut-être que c'est une autre identification spéciale, un nom spécial que Dieu allait donner, un petit peu comme ce qu'on voit dans Apocalypse 2, 17. Une des promesses de ces lettres qui sont faites à l'Église, il est question du fait que Dieu va donner au vainqueur une pierre et qu'il y aura un nom spécial marqué dessus. On ne sait pas, mais il continue, il dit « L'Éternel, le maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. » Il va enlever la faute de ce pays en un jour. C'est une formidable prophétie du travail de Jésus à la croix. David, dans le psaume 32, disait « Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. » Ils vont être heureux, la faute, les choses dont ils sont coupables vont être enlevées par ce germe, par cette pierre. Et puis au verset 10, « Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. » Cette idée de vigne et de figuier, c'est une image qui revient dans l'Ancien Testament, qui est une idée du paradis, qui est une idée de la plénitude de ce que Dieu veut donner, du paradis. Moi, ça me rappelle, mon oncle et ma tante avaient une maison jusqu'à il y a quelques années dans le Var, près de, on va dire, Brignoles, on va dire, voilà. Et ils étaient dans les vignes, et ils avaient des figuiers. Et donc pour moi, c'est un petit peu la vision du paradis dans l'Ancien Testament, c'est un barbecue entre amis et famille dans le Var, en Provence. Et cette image de la tranquillité, de la plénitude de Dieu qui pourvoit. Et donc pour un petit peu nous donner quelques points sur ce passage, on a dit que la prophétie, qu'il y a l'idée d'un accomplissement proche. On pense que pour le pays, pour le peuple qui entendait ça, peut-être que ça a été accompli pour eux dans leurs circonstances, au moment où ils ont vécu. Mais il y a aussi l'idée d'un accomplissement futur pour Israël qui est encore à venir. Qu'Israël n'est pas encore venu à vraiment suivre Jésus, n'est pas encore vraiment venu à obéir à ce qu'il leur demande. et on peut faire toute une étude sur la fin des temps, sur la chronologie de la fin des temps, mais cette idée que Israël attend encore l'accomplissement de cette promesse et l'idée que Dieu va les établir, va les rétablir comme ce peuple qui est ce peuple de prêtres qui se tiennent vraiment devant Dieu et qui lui servent vraiment comme il le souhaitait, comme dans l'Ancien Testament il le voulait, et que ça reste encore à venir. Encore une fois, cette idée avec Paul qui disait non, Dieu n'en a pas fini, il attend. Dans Romains 11, 25, il est question du fait que Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ça se rapporte à ce qu'on comprend de la fin des temps. Et puis, si on prend un peu de recul, on voit cette prophétie du Messie. Et Zacharie est un livre incroyable. Si vous n'avez pas lu Zacharie récemment, si vous voulez vous donner un petit peu pour vous aider avec cette étude, pour peut-être vous encourager dans votre foi, lisez Zacharie, regardez les passages qui parlent de Jésus, et il y en a plein, et ce sont des versets qui sont très clairs. Il y a les visions, il y a des choses où on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas trop. Mais il y en a d'autres où c'est limpide, où il est question du peuple qui va pleurer sur celui qu'ils ont percé, etc., etc. Il y a une quantité de prophéties sur Jésus dans ce livre c'est incroyable. Et ce livre a été écrit 400, 500 ans avant la venue de Jésus. On a retrouvé les copies datées de 200 ans avant Jésus-Christ. On n'est pas sur des trucs qu'on a écrits a posteriori. On a trouvé des manuscrits où ces choses sont marquées 200 ans, les fragments physiques, 200 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Imaginez-vous essayer de prédire ce qui va arriver à un politicien dans 200 ans. On n'arrive même pas à savoir ce qui va se passer l'année prochaine. Macron, Trump, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? On n'a aucune idée. Et de voir ces prophéties, ça donne un poids, ça donne une autorité, ça donne une légitimité à la parole de Dieu que aucun autre livre dans le monde n'a. On n'est pas sur des élucubrations bizarres où on se dit, oui, quelqu'un, un personnage, un vague personnage va vaguement faire un truc bien. Il est question de quelqu'un qui va entrer dans Jérusalem sur un âne, il est question du champ du potier, il est question de quelqu'un qui va être percé, il est question de celui qui va enlever la faute, ce qu'on a lu ce matin, c'est d'une puissance incroyable. Si vous vous dites, je doute de la parole de Dieu, faites une étude poussée et approfondie sur les prophéties. Pierre en parle quasiment tous les dimanches. Si ça vous passe, si ça devient du bruit blanc, je vous encourage à nettoyer vos oreilles, à vous dire, il faut que je me remette en tête l'importance de ces prophéties. C'est incroyable. Et pour nous, quelques pensées par rapport à ce texte, que j'en ai déjà parlé, mais nous aussi, nous sommes sales. Sans Jésus, nous sommes indignes. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu. La seule chose qui va tenir devant Dieu, la seule chose qui va nous permettre de venir à Dieu, c'est ce que lui a fait. C'est lui nous dit, mettez-lui des habits propres, des habits de fête, qu'il puisse rester ici. Et on peut voir aussi que Dieu va nous défendre. Il y a un accusateur qui dit, ils sont pas dignes, ils sont pas, on n'est pas arrivé, on n'est pas complètement sanctifié, on n'est pas parfait. Vous savez autant aussi bien que moi qu'on est tous pécheurs, le nombre de fautes, le nombre de péchés, de pensées, de mauvaises réactions, de mauvaises idées, nous ne sommes pas parfaits. Et Satan va venir et va nous accuser, va accuser notre conscience, va nous faire croire je suis pas digne. Oui, il a raison, je suis un pécheur, je suis horrible, je veux. Et Dieu nous défend. C'est Dieu qui dit je les ai choisis, j'ai permis, j'ai fait ce qu'il fallait pour eux. Nous ne sommes que des morceaux de bois brûlés que Dieu a décidé de tirer du feu. Parce qu'il a décidé. Une autre idée, c'est que nous sommes sales et nous sommes imparfaits, mais Dieu veut que nous le servions. Souvent, on peut se dire, mais je suis pas parfait, j'ai des PC, je me dis, je vais aller lire la Bible et prier quelques mois, et après peut-être que je servirai Dieu quand j'en serai digne. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ce que nous faisons qui nous rend purs, c'est ce que Dieu a fait quand nous l'acceptons. Il veut que nous le servions. On ne doit pas se retrancher derrière nos péchés, nos imperfections pour nous dire « je ne vais pas servir Dieu, je ne vais pas obéir, je ne vais pas aider à l'église, je ne vais pas faire ce que je pense que Dieu m'appelle à faire. » Alors il nous demande de le suivre et de respecter ses ordres. On a un devoir. Et puis un dernier point, c'est cet accès auprès du Dieu de l'univers. Le Nouveau Testament nous dit que le voile a été déchiré quand Jésus est mort. Dans l'Ancien Testament, je vous disais, il n'y avait que le grand prêtre une fois par an qui avait le droit d'aller voir Dieu. Et le Nouveau Testament nous dit, nous avons un accès direct, nous pouvons prier Dieu, c'est comme si nous étions en présence de Dieu. Dans Hébreux 10, les versets 18 à 20, il est dit « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » Et Paul, dans Éphésiens 2, 18, dit « À travers lui, en effet, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » C'est là aussi, c'est quelque chose où on se dit chrétien, on se dit mais, et moi je suis repris ces derniers temps par rapport à ça, de me dire comment est-ce que je considère la prière? J'ai une vision complètement horrible de la prière d'une certaine manière. On a un libre accès devant le Dieu de l'univers, celui qui a créé l'univers. On peut aller le voir et lui parler. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On a accès au Dieu Tout-Puissant. C'est quelque chose que je veux plus méditer parce qu'on peut le dire, on peut l'exprimer, on peut le parler ce matin, mais après vraiment le faire nôtre et de le comprendre quand nous. Le matin quand je me réveille, est-ce que je me dis tiens, je peux aller parler au Dieu de l'univers? Parce que quand j'ai des problèmes ou quand ça va bien, je peux parler au Dieu de l'univers. Est-ce que les réunions de prière qu'on peut avoir à l'église ou ailleurs, ou les temps de prière avec quelqu'un, on peut aller voir le maître de l'univers. On peut, quand on partage les uns avec les autres, peut-être des difficultés, des choses, et est-ce qu'on donne nos conseils, ou est-ce qu'on dit tiens, allons voir le Dieu de l'univers. C'est formidable. Et ce passage finalement, c'est quoi? C'est le peuple est découragé. Ils se disent mais qui est-ce qu'on est? On a tout perdu. Notre peuple, on est indigne, on est horrible, on revient, on est peu, on a du mal, on lutte. Et ce passage, qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte? Il dit regardez à Jésus. Regardez, mettez votre espoir en Jésus, c'est lui l'encouragement ultime, c'est lui qui doit nous encourager, qui doit être notre espoir, notre motivation. Et c'est vraiment formidable, c'est de nous tourner de nos problèmes, de nos petits soucis, de notre situation sur terre, de nos circonstances, et de nous tourner vers Jésus, de regarder. Ici, il leur dit dans le futur, il dit je vais faire venir un germe, je vais enlever la faute, ayez espoir. Et nous, on a cette position où on sait qui est Jésus, on sait ce que Dieu a fait. C'est d'une richesse incroyable. Et ce passage sur ce grand prêtre, On a fait l'étude dans la lettre aux Hébreux et quasiment toute la lettre aux Hébreux, c'est une lettre où une grande partie de l'argumentation, c'est de dire que Jésus est le meilleur grand prêtre et le grand prêtre parfait et celui qui remplit le rôle d'une manière complètement parfaite. Et tournons-nous donc vers Jésus. Regardons à Jésus, qu'il soit notre espoir, qu'il soit celui qui nous revête de vêtements de fête, qu'il soit celui que nous suivons et dont nous respectons les ordres. Prions. Seigneur, merci pour ce texte ce matin. Merci pour Zacharie. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre que quand nous prions, nous parlons au Dieu de l'univers. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ça. C'est incroyable. Nous n'en sommes pas dignes, mais grâce à toi, grâce à ton plan parfait, grâce à ton Fils qui est mort, nous avons accès à toi. Nous pouvons être réconciliés avec toi. Si nous acceptons avec foi ce sacrifice, si nous mettrons notre foi en Jésus, nous sommes libres de venir devant toi, de te parler. Merci Seigneur, merci pour qui tu es. Que nos cœurs, en méditant ta parole, Seigneur, se mettent à te louer, Seigneur. Tu es incroyable, c'est incroyable ce que tu as fait pour nous. C'est incroyable de voir ces prophéties données à l'avance qui valident ta parole, Seigneur, qui nous encourage. Sois glorifié ce matin ici parmi nous. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Merci pour ton corps, l'Église. Sois ici présent parmi nous. Amen.